Ok. Bien. On va prendre des roumages. Là, derrière, il y a des roumages. On va reprendre la question qu'on a posée la semaine dernière. Pour les personnes qui n'étaient pas là, c'est loupé. Vous n'étiez pas là la semaine dernière. C'est foutu. C'est foutu. Bon. Please. Alors, je vais quand même reprendre succinctement. Je vais être bon. Alors, avant de commencer, la semaine prochaine, le cours ici, ça sera à 20h30, exceptionnellement. Parce qu'avant, il y a une présentation de mon livre, une bibliothèque municipale, la ville de Paris. C'est sympa.
Bien.
Comment?
Bien.
C'est... Ben voilà, je donne les... Vous pouvez prendre un papier. Si vraiment vous êtes shooté, vous venez aux deux, quoi. Vous venez. Mais. Mais que dire l'intérêt, c'est d'inviter des gens qui n'iraient peut-être jamais à un cours, si vous voulez. Voilà, c'est ça l'intérêt. Voilà. Ouais, ok. Donc, c'est bibliothèque dans le 3e arrondissement. Ce étant, on va commencer. Donc, on reprend les versets à la fin de Parashat Bereshit. Chapitre, c'est page 9 dans l'édition là. Chapitre Vav, verset Aleph. Chapitre 6, verset 1. Alors, quelle est la problématique? La question donc, que nous avons commencé à aborder, disons, qui me travaille, c'est les dernières années, on pourrait dire qu'il y a un renouveau, pas seulement du fait religieux, mais des cultures qui se revendiquent du fait religieux. L'Occident, avec ses valeurs, l'Orient avec ses valeurs, et bon, il y en a qui ont appelé ça le choc des civilisations. Bon, il y en a qui disent il n'y a pas de choc des civilisations, il y a le choc des civilisations. Bon, ça, il y a un débat. Mais on voit, par exemple, la semaine dernière, il y a eu le caucus. Ouais, on dit comme ça? Ouais, dans l'Iowa. Et il y a Rick Santorum qui est arrivé en bonne place avec son programme FES Family and Freedom. Foi, famille, liberté. Cette dimension est, comment dire, a une force certaine. C'est-à-dire que dans l'échiquier politique aux États-Unis d'Amérique, c'est quelque chose d'important. Si tu fais un discours sans parler de Dieu, si tu es sûr, tu ne seras pas élu. Il faut parler de Dieu. Bon, en France, c'est autre chose. En France, c'est autre chose. Vous voyez Sarkozy qui dit « Bon, Hachem, ça va. » grâce à Dieu, le bilan n'est pas si catastrophique que ça. Non, enfin, non, disons, c'est comme ça, grâce à Dieu, en France, c'est interdit de dire. Sauf Christine Boutin, mais elle rame. Ouais. Mais alors, le comment dire, c'est des présentations, on pourrait dire, du fait religieux très très fortes. Et évidemment, l'islamisme se développe comme on le voit. Bien que la semaine dernière, on avait un de nos assistants qui disait qu'on n'a rien compris. C'est pas un développement islamiste, ça a toujours été en Orient. Bon, ça l'engage. Lui, moi, j'ai l'impression que c'est pas comme ça. C'est vrai que je n'ai jamais vécu dans un pays oriental. J'ai l'impression néanmoins qu'il y a un boom certain. Et nous, juifs, où on est là-dedans? Voilà. Et on fait quoi? À part manger nos pizzas cachères. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On est où? On attend qu'on nous envoie une bombe atomique dessus. Qu'est-ce qu'on fait? On est où? Alors, y a des versets qui, me semble-t-il, parlent de ça. C'est les versets que nous allons reprendre rapidement, parce qu'on a passé la séance la semaine dernière là-dessus. Je ne veux pas reprendre, mais on va lire les versets. On les lit même en français pour ne pas perdre de temps. Or, quand les hommes eurent commencé à se multiplier sur la terre et que des filles leur naquirent, les fils de la race divine trouvèrent que les filles de l'homme étaient belles. Ils choisirent pour femmes toutes celles qui leur convinrent. Alors, le point, c'est que ça a été, donc c'est la génération du déluge. La question est, ici, c'est avant le déluge. Qu'est-ce qui s'est passé au déluge? On regarde les commentaires, en particulier Rashi dit que ça a été une période complètement dévoyée. Période complètement dévoyée. Et l'humanité est partie à casser toutes les barrières. Jusque-là, il y avait des valeurs qui étaient fermes dans l'humanité, qui structuraient l'humanité. Et là, ils allaient selon leur pulsions, leurs envies, et ils ont balayé les limites. Par exemple, ils allaient, Rachid dit, le verset dit, ils choisirent pour femmes toutes celles qui leur convinrent. C'est-à-dire même des femmes mariées. Donc une femme était mariée, ils allaient avec une femme mariée, donc adultère. Ou même, le verset dit, toutes celles qui leur convinrent, Rachid dit, même un homme allait avec un homme et un homme allait avec un animal. Finalement, c'est des a priori hein, de dire que l'homme est différent de l'animal. Il pourrait y avoir une belle aventure entre un homme et un animal. Il y a des gens qui disent, j'ai rencontré des gens, je pense chacun d'entre nous a déjà rencontré des gens comme ça, qui disent, moi je suis déçu des hommes, maintenant j'ai que des chiens. Au moins, ils sont fidèles et ils nous comprennent. Voilà. Mais j'ai rencontré des gens qui disent ça comme ça. Je suis déçu des hommes. Maintenant, je n'ai que des chiens. Et avec, je suis content. Je suis contente même. Je ne suis pas déçu. Ils sont fidèles, affectueux. C'est bien. C'est une belle histoire. C'est une belle histoire d'amour. Eh bien, c'était ça. Et plus si affinité, quoi. Vous voyez ce que je veux dire, hein, hein? Vous comprenez ce que je veux dire. Donc là, c'était, toutes les limites étaient cassées. Voilà, les limites étaient cassées. Le verset suivant dit: L'Éternel dit, mon esprit n'animera plus les hommes pendant une longue durée. Car lui aussi devient chair, leurs jours seront réduits à 120 ans. Alors maintenant, on va prendre le verset en hébreu, par contre. Le verset 3. Vayomer Hashem, lo yadon ruchi badam. Donc là, la traduction en français ne suit pas l'explication de Rashi. C'est pas l'explication de Rashi. Nous allons prendre selon l'explication de Rashi. Vayomer Hashem, Dieu dit, lo yadon ruchi badam leolam, mon souffle ne se querellera pas sur l'homme éternellement. Béchegam ou bassar, parce qu'en fait, il est cher. Va yu yamav me'av esrim shana, ses jours seront de 120 ans. Donc, voyant cette déliquescence de l'humanité, cette humanité qui va à volo, donc Dieu dit, ok, on ne va pas laisser les choses comme ça, je donne un répit de 120 ans à l'homme pour qu'il se ressaisisse. Je donne un répit 120 ans à l'humanité pour qu'elle se ressaisisse. Je donne pas, ça ne va pas durer éternellement. Je donne un répit. Soit ils se ressaisissent, soit on formate. Voilà, ok. Pourquoi ? Béchegam ou bassar, parce qu'en fait il est cher, c'est-à-dire... Son côté pulsionnel, il prime, il n'arrive pas à se dominer, il n'arrive pas à faire quelque chose, il est pulsionnel. En soi, c'est bien d'être pulsionnel, mais si on fait quelque chose de ce pulsionnel, mais chez Gab ou pas ça, parce qu'en fait, il est cher. Prends un texte. Merci. Chegam ou Bassar, parce qu'en fait, il est cher. Alors, la semaine dernière, je vous ai rapporté le Talmud dans le traité Roulin. Je vous le repasse, on va faire ça. Je vous repasse le texte. J'ai souligné les mots, les quatre mots du Talmud. Donc Dieu dit, je ne me bagarrerai pas avec l'homme éternellement, je ne supporte plus ça, je ne supporte pas. Il y avait un enjeu, et cet enjeu, vous avez déjà fait du Talmud ? Alors ce n'est pas en hébreu, c'est en araméen. Ça va, c'est mieux, non ? Hein, c'est mieux. Alors. Alors, le Talmud reprend ce verset et soulève un point. Donc ça, c'est ce qui est souligné dans Traité Roulin Kouf Lametet Amoud Bet. Moshe mina Torah minayin. Moshe, d'où apprenons-nous Moshe, Moïse dans la Torah? D'où apprenons-nous Moïse dans la Torah? Le verset dit Béchegam ou Bassar, parce qu'en fait il est cher. Béchegam, Rashi nous dit, valeur numérique, Moshe. Bon, on est là. On reste quoi?
Je peux conclure la question.
Comment? Voilà. Si tu n'as pas compris la question, c'est que tu commences à comprendre. Quelqu'un qui me dit j'ai compris, c'est sûr qu'il n'a pas compris. Tu dis j'ai pas compris, c'est que tu es dans le sujet.
Merci.
Voilà. Voilà. Je reprends. La Gemara, c'est une Gemara relativement célèbre, qui dit.
Ça commence à 20h.
Oh, mais je pensais 20h tout, attendez.
Par contre, la semaine prochaine, ça sera 20h30.
Alors, la semaine prochaine.
Ok, il n'y a pas de problème. Pas de problème. Donc, je reprends. Je dirais, il y a la Bible, la Torah. Sans le Talmud, c'est de la Bible. C'est le Talmud qui va, notre tradition orale, qui va prendre le texte et qui va faire ressortir quelque chose de ce texte. Souvent, de manière, en première lecture, ça ne va pas. Qui brise quelque chose, casse quelque chose. C'est ça la difficulté de l'étude du Talmud. C'est très très difficile. Le but n'est pas que ça soit difficile, mais si vous voulez, c'est comme quelqu'un, il veut aller quelque part, il faut aller dans, on va aller dans la pièce là-bas, il n'y a pas de porte, il faut casser un mur. Bon, il y a des choses à casser. Le Talmud dit, d'où apprenons-nous Moïse dans la Torah? Je vous demande, cette question ne veut rien dire. Moïse, on est le parachat de Shemot.
Tu me dis, j'ai pas compris.
Non, mais d'accord, mais bon, je délaye ton interrogation. On est là, Shabbat, ça sera parachat de Shemot. Rien que dans la parachat de Shemot, je ne sais pas combien de fois on dit le mot Moïse. Et 50 fois peut-être. Donc, d'où apprenons-nous Moïse dans la Torah? Ben, plein de fois, Moïse, il est plein de fois dans la Torah. Donc, quelle est la question de la Torah? Quelle est la question de la Gemara ici, du Talmud? D'où apprenons-nous Moïse?
C'est quoi, c'est des questions?
C'est des questions de Moïse.
Ou l'existence de Moïse, c'est quoi?
Maintenant je vous écoute. Je ne sais pas, je n'ai pas lu les corrigés.
Bah si, il est juste après.
Comment? Ah, mais chez Gam ou Bassar.
Voilà.
Alors là, c'est la cancre. Hein.
Ah ouais, je ne pose pas de questions, c'est mal.
Comment?
Je ne pose pas de questions, c'est mal. Je ne sais pas comment ça commence. si j'ai bien compris, c'est où est-ce qu'on apprend que Moïse il existe? Ce n'est pas les 50 fois où on prononce son nom, c'est Cher ici dans le verset et qui fait référence à Moïse parce qu'il y a un lien entre Cher et Moïse, et celui-là on
ne
connaît pas. Et là c'est ce qu'on va
expliquer. Alors vas-y, oui c'est bien. Nous. Non, ça c'est l'équation à une inconnue. Il y a une équation à une inconnue.
Oui.
Ce verset
parle de Moïse parce que Béchégam.
Ce verset annonce Moïse.
Ce verset parle de. Non, c'est pas. C'est pas qu'il parle de Moïse. C'est pas qu'il annonce, il parle de Moïse. J'avais rapporté la semaine dernière le Zohar qui dit que dans la génération là de la déliquescence de toutes les valeurs, comme dirait la grande marine, ouais, défendons les valeurs de l'Occident. Voilà. Vous savez, sur Internet, parce que malgré les apparences, comme j'ai dit la semaine dernière, je prépare les cours. Et j'ai regardé un peu qu'est-ce qui se dit en christianisme, en islam, et aussi en judaïsme, parce que mes vidéos sur Internet, je les connais, mais les vidéos des collègues, j'ai regardé un peu qu'est-ce qu'ils disent. Il y en a un monsieur avec une kippa et une barbe, il dit, il faut absolument défendre la race blanche. Vous avez vu cette vidéo?
Dinovitch.
Vous avez vu?
On a parlé la semaine dernière.
Tu l'as vu?
Qui est?
En vérité, c'est un grand ami à moi, mais on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord sur beaucoup de choses, mais c'est...
il dit c'est il y a l'humanité va en déliquescence par le fait que la race blanche n'assume pas son message. C'est ça, en un mot, non?
Oui, en un mot, oui.
C'est mieux dit.
Il brûle un peu plus.
Hein, c'est, il le dit mieux que ça, mais...
Il passe 20 minutes dessus, c'est ça.
Alors, non, mais c'est alors...
Il s'inclut dedans, quoi.
Comment?
Est-ce qu'il s'inclut dedans? Je sais pas, mais parce qu'en général, quand il est blond, il est...
Non, mais c'est un juif ashkenaz aussi. Il est un peu blond aussi. Un peu. il est un peu comment dire, oxygéné. Alors, à l'eau oxygénée. Bon.
C'est quoi son message?
Je sais pas. Il faut voir. Mais je... Non, c'est intéressant de voir que sur Internet, il y a vraiment de tout. C'est... Alors... Il y a un message qu'on peut voir décliné par tout le monde, déliquescence des valeurs. Voilà. Déliquescence des valeurs. Et la Torah nous parle de ça, la déliquescence des valeurs. C'est ça, la génération du déluge. Bishegam ou Bassa, parce qu'il est cher, le Talmud dit, ah, là il y a Moïse. Ce que le Zohar dit, que là, en vérité, ils étaient prêts pour recevoir la Torah. Il y avait là un terrain favorable pour recevoir la Torah. Et d'ailleurs, le Zohar développe, l'âme de Moïse était là. Ou, pour reprendre ce que Jessica dit, si, certes, Moïse, on le voit, je ne sais pas combien de fois dans la Torah, mais l'existence de Moïse, la possibilité de Moïse, ce qu'est Moïse, son être, sa structure mentale, elle est là.
Donc en fait, il y a une comparaison entre les Béné Israël, entre les Béné Israël en bas du mont Sinaï et cette génération, en disant que Moïse, il est là, il aurait pu être là à ce moment-là, il aurait pu donner la Torah.
Il aurait pu y avoir le don de la Torah à ce moment-là. Là, dans la déliquescence des valeurs. Comment? Oui, si ce n'était pas paradoxal, il n'y aurait pas le cours. Le cours, il est là-dessus, sur le paradoxe. Mais à part le goût du paradoxe, maintenant, il faut quand même saisir de quoi on parle. Il y a un paradoxe, très bien. Mais qu'est-ce qui nourrit ce paradoxe? Voilà.
C'est pas le sommet de la déliquescence qui induit le don possible de la Torah.
Excuse-moi.
C'est pas le fait de pousser la déliquescence à son extrême qui fait que ça rend possible le don de la Torah.
Ça, c'est pas logique.
Oui. Oui. Mais comment? Comment? Comment?
Ça, c'est pas logique, oui.
Comment?
Oui, mais c'est pas logique, ça.
Alors, oui. Alors, qu'est-ce qui est là-dedans? Qu'est-ce qui barbote là-dedans? Ok. Comment? Alors, il y a deux, si tu veux, Ilan, il y a deux choses qui vont l'un avec l'autre. D'abord, en quoi cette perception d'un débordement de notre dimension charnelle, finalement, parce qu'il est cher, c'est... Parce qu'en fait, il est cher. Parce qu'en fait, c'est comme si on découvrait la dimension charnelle, pulsionnelle qui est en nous. Et alors, il y a ça. Donc là, ce que nos maîtres disent là, il y a quelque chose qui fait que on est proche à être apte à recevoir la Torah. Et d'autre part, si c'est ça, quelle sera la fonction de la Torah, qu'est-ce qu'elle va apporter, la Torah, comment la Torah va se structurer par rapport à ça? Voilà. Qu'est-ce qu'elle va faire là, la Torah? En quoi la Torah s'articule à ce moment-là précisément?
En fait, de l'ordre.
Alors, voilà, ça c'est très important, c'est que on aurait tendance à dire, excuse-moi, comment c'est ton prénom ?
David.
Oui, on aurait tendance à dire ce que tu dis, David, c'est que la Torah serait là pour mettre de l'ordre. Mais pourquoi la Torah serait là pour mettre de l'ordre quand il y a un désordre total ? Quand il y a la découverte d'un désordre. Parce que là, Dieu a l'air d'être, Dieu a l'air de découvrir même sa création, en disant, ah, mais c'est pas possible. Ah, c'est pas possible, ça c'est Moïse. Si c'est pour mettre de l'ordre, pas besoin d'arriver à une déliquescence finalement. Ça pourrait être moins déliquescent, et il faut aussi de l'ordre. À tout moment.
Vous traduisez Béchégam, vous traduisez parce qu'en fait.
Parce qu'en fait.
Il est cher. Mais Béchégam, si on prend littéralement, c'est parce que lui aussi. Béchégam où ? Parce que lui aussi il est cher. Mais c'est qui aussi ?
Béchégam où ? Parce que.
Gam, c'est aussi.
Aussi, parce que aussi.
Lui où ?
Parce que aussi il est cher.
Mais c'est
parce que moi je traduis parce qu'en fait. Parce qu'aussi, parce qu'en fait. Moi, je traduis parce qu'en fait.
Mais alors, si c'est aussi, si on parle du principe, oui. C'est aussi, c'est
aussi.
Qui l'autre
bah, si c'est
mais chez Gabou, c'est le
peuple d'Israël au bord de la... Tu vas voir au début de la phrase, Moshe, c'est par les autres.
Comment ?
Tu vas voir au début de la phrase. Voir est au début de la phrase. Il n'est pas que esprit, il est...
Il est cher. Il est parce que... Ah, voilà, très bien. Parce qu'il est aussi cher. Voilà. Parce qu'il est... Ça va bien dans la traduction. C'est-à-dire que... Parce qu'il est aussi cher. Parce que la dimension chère... Évidemment, Dieu a créé l'homme avec une dimension chair, mais cette chair, on pourrait comprendre, elle devait être au service de quelque chose. Mais il est aussi chair. Comment traduit-il ? Parce que lui aussi devient chair.
Là, il y a deux expressions pour parler des hommes. Moi, la question que je pose, c'est qui est chair ? C'est les Béné à Elohim ou c'est les
Banot
à Adam ?
Non, les
Béné
à Elohim. Les Béné à Elohim. Béné à Elohim qui, eux, ont privilégié, finalement, leur côté cher, leur pulsion. Quand je ne veux pas trop reprendre ça, parce que ça, c'est un peu ce qu'on a développé la semaine dernière. J'aimerais avancer un petit peu. Alors, regardez.
Ce que je comprends, c'est que Adam n'est pas Adam, en fait. À Adam, on a la particule avant. C'est pas Adam. Adam a un lien avec Dieu. Il est issu du souffle divin. C'est ce qu'il dit là. Mais le Adam, les Banot Adam n'ont pas de rapport avec la tradition adamique.
C'est ça, c'est ce qu'on avait
c'est
dit.
Ça.
C'est ça. Alors, donc même Béné à Elohim, parce qu'aussi eux sont chers, eux aussi, ils ont fait des. Finalement, leur côté cher est parti en à la dérive, et pas en tant que service d'eux. Ça, c'est quelque chose de très, très profond. Parce que Dieu avait donné, on voit des commentaires sur ces versets, Dieu a donné à l'homme de ces générations des capacités de perception prophétique qui, après, seront beaucoup moindres. C'est ça l'explication. « Lo yadon ruchi » Mon esprit n'animera plus les hommes. Ça, c'est l'explication de Ibn Ezra, Rabbi Avraham Ibn Ezra, que Dieu n'insufflera plus tellement de souffle prophétique à l'homme. Parce que finalement, ce souffle prophétique leur a servi pas à développer la dimension positive, mais la dimension pulsionnelle. Regardez, je mets une petite parenthèse. J'aime bien me référer, est-ce que c'est bien ou non, peu importe. Mais pour moi, les années 60, 1960, il s'entend, il y a eu, je dirais, une genre de souffle prophétique. On peut dire oui, on peut dire non, on peut se discuter. Mais pour moi, j'ai l'impression qu'il y a eu un genre de souffle prophétique. Il y a eu une bouffée d'une soif dans les pays occidentaux de connaissances qui étaient invraisemblables. Aujourd'hui, je dirais, pour faire rapide évidemment, les stars, c'est Steve Jobs qui invente des machines. Bon, c'est bien, c'est des grandes stars. Mais dans les années 60, les grandes stars, c'était Jean-Paul Sartre, Herbert Marcuse, des gens qui réfléchissent. Qui réfléchissent pas seulement à faire des machines. C'était des gens créatifs dans la pensée, dans l'expérience humaine. Pas dans les machines, pas dans les biens de consommation, mais dans l'expérience humaine. Mais c'est un peu comme dans cette génération, on a ouvert la boîte de Pandore et ça donnait la libération sexuelle. Mais la libération sexuelle, c'est formidable. Mais après, il n'y a plus de limite. Après, je dirais, pour faire rapide, c'est peut-être ridicule la rapidité que je dis, ça donne génération sida, quoi. Il n'y a plus de limite, on ne sait plus où on est. On est dans la drogue, sex, drug, under control. Ouais, on n'est plus où on est. On ne sait plus où on est. Donc, si vous voulez, le souffle prophétique qui anime l'homme, qui est fondamental, mais à un moment, il sert finalement à développer le pulsionnel. Ça, c'est invraisemblable. C'est fou, en vérité. T'as des gens, les grandes stars, je ne sais pas aujourd'hui qui sont les stars d'aujourd'hui, mais il y a 40 ans, ça fait vieux crouton, évidemment, mais les stars, c'était Jacques Lacan. Il y avait un truc de Jacques Lacan, il y avait, tout le monde était là, les gens n'y comprenaient rien, mais il fallait être au séminaire de Jacques Lacan. Si t'es pas au séminaire de Jacques Lacan, t'as loupé ta vie. Qu'est-ce qu'il a dit? On n'a rien compris. C'était formidable. Il n'a rien dit. Mais c'était puissant. Il a rien. Qu'est-ce qu'il a dit? Rien.
Il avait dit tout à l'heure de ne pas comprendre si elle est sur la bonne voie.
Voilà. Voilà. C'est rien. Mais c'est une freinée, voilà. Mais tout ça, ça donnait quoi? Ouais. Qu'est-ce que ça donne? Ok. Alors, ça, on pourrait dire, ça, c'est une parabole, ce que je dis. Mais cette parabole, c'est ça. C'est parce qu'en fait, il est cher. Il a développé, c'est ce que la traduction, il dit, car lui aussi devient cher. C'est-à-dire, son développement spirituel, au lieu de développer une élévation, se transforme dans une dépravation. Lui aussi devient cher. Lui aussi, le Bene Elohim devient cher. Lui aussi, pour reprendre l'insistance que tu demandes, il a, Bechegam, lui aussi. Et lui aussi, valeur numérique, Moïse. Pourquoi Moïse est là? Pourquoi Moïse est là? Alors, on va essayer, ça, si on pourrait dire, c'est résumé de l'étude de la semaine dernière. Maintenant, on va essayer d'avancer par rapport à ça. Alors, à la Yeshiva, on a développé plusieurs fois, peut-être plusieurs d'entre vous étaient à des cours sur ce thème-là, mais je pense que, et aussi, Dans la brochure là, je l'ai développé. Il y a deux textes, la réflexion sur la fonction de la loi et pour une fête profane. Si vous voulez, pour ceux qui veulent, vous pouvez le prendre. Bon. Je vais essayer de reprendre. Parce que je veux dire que plusieurs étaient déjà des études sur ce sujet, mais je le reprends. Donc le Zohar reprend le passage du Talmud en disant que dans cette constatation de Bechegam ou Bassar, car lui aussi est cher, c'est les mots qui veut dire Moïse. pour reprendre la remarque de Jessica, Moïse, il est là. Là, c'est Moïse. C'est-à-dire, certes, on voit Moïse, je ne sais pas combien de fois dans la Torah, mais si tu veux percevoir l'être de Moïse, l'existe, où il est, comment il est devenu Moïse ? Quelle est sa capacité intérieure de Moïse ? Son éducation, sa structure ? Elle est là, sa structure. Alors, j'ai essayé de méditer là-dessus. Je propose la démarche suivante. Yom Kippour correspond à quel événement de l'histoire juive ? Chaque fête du calendrier juif correspond à un événement. Yom Kippour correspond à quel événement de l'histoire juive ? Ça correspond au don des deuxièmes tables de la loi. C'est peu connu. Ouais. C'est peu connu. Mais Yom Kippour correspond au don des deuxièmes tables de la loi. Maintenant, c'est quoi ? Qu'est-ce qui se passe à Yom Kippour ? Alors, à Yom Kippour, on sait, ouais, on jeûne, voilà, c'est le grand pardon, oui. Ok. On va à la Sina, voilà. Ok. Mais c'est quoi la structure de Yom Kippour ? C'est quoi la structure de Yom Kippour ? Alors, pour percevoir Yom Kippour, souvent, j'introduis par quoi commence Yom Kippour ? Yom Kippour commence par Kol Nidre. C'est quoi Kol Nidre ? C'est quoi Kol Nidre ? Chez les Ashkenazim, Kol Nidre, c'est extrêmement développé. C'est le moment le plus émouvant de l'année. Mais c'est quoi Kol Nidre ? C'est quoi le moment de Kol Nidre ?
On s'exonère de toutes les promesses qu'on aurait pu faire dans l'année.
Ouais.
Et à l'avance aussi, je crois qu'on ne s'exonère pas des promesses qu'on aurait pu faire à l'avance.
Alors, au niveau légal, à la RIC, c'est qu'on prend sur soi solennellement qu'on ne veut plus prendre des engagements qui s'appellent des nédarim. Tous les Kol Nidre Vesare Ushfoué Dindarnab Ishtabana Meyom Akipurze Meyom Akipurim Abalenu Yubetelim Ushfoutim voilà Lo Kayamim Velo Lo Shrerim Velo Kayamim. Tous les nédarim que j'ai fait ou que je ferai, je les annule. C'est-à-dire que souvent, dans la vie, on est amené à faire des nédarim. C'est quoi un néder ? C'est quoi un néder ? Un néder, la Torah nous dit qu'il peut y avoir des nédarim, par exemple, un néder, disons que j'ai une addiction au chocolat. Je vois du chocolat, il faut que je mange du chocolat. C'est comme ça. Mais par contre, chocolat noir, hein, pas chocolat vert. Vous savez, l'humanité est coupée en deux. Ouais. Il y a ceux qui sont addicts au chocolat noir, donc au chocolat au lait. C'est deux styles.
Tu es addict aux deux ?
Comment ? Ah non, ceux qui sont addicts aux deux, on va dire, ils sont addicts au chocolat au lait. Il y en a qui disaient, c'est la même manière, dans ma génération vieux crouton, c'est de la même manière ceux qui sont addicts aux Beatles ou donc aux Rolling Stones. C'est deux cultures. Ouais, c'est de la même manière, tu as le chocolat noir, le chocolat au lait.
C'est pas
pour les Beatles et Rolling Stones.
Comment ?
C'est pareil pour les Beatles et Rolling Stones.
Il y en a qui aiment les deux. C'est un engagement, dans la vie. C'est très important. Alors, il y a quelqu'un, il est addict au chocolat, mais il n'arrive pas, à arrêter. Alors, la Torah nous donne la possibilité, c'est quoi ? De faire un éder. Par exemple, pendant un certain temps, bien que ce chocolat soit tout à fait cachère, il y a trois tampons que c'est cachère dessus, trois rabbinats qui ont attesté que ce chocolat est cachère. Mais, bien que ça soit cachère, je prends sur moi Benéder pendant un mois de ne pas manger de chocolat. Et si la personne en mange, elle transgresse un interdit de la Torah. Elle peut se créer un interdit de la Torah. Bien que ça soit cachère, ouais, mais ben, voilà. Ou ça peut être, je ne sais pas, quelqu'un, il fume des clopes, il n'arrive pas à arrêter. Il a fait des trucs, des machins, des nicorettes, des machins, des bidules. Des patchs et des repatchs, il y a plein de patchs partout, ouais, il n'arrive pas à arrêter. Ben voilà, pendant une semaine, je fais le néder de ne pas fumer de cigarette. Voilà, ok, une semaine. Au bout de la semaine d'après, la personne va voir est-ce qu'elle refait encore un néder d'une semaine, par exemple. Bien. Alors l'entrée de Yom Kippour, on arrive, on va à la synagogue, tout transi, on met le talès sur la tête. On commence à Yom Kippour. Je prends solennellement sur moi de plus faire de neder. Ça, c'est le commencement de Yom Kippour. En quoi c'est important ? C'est naze. C'est bidon. En quoi ? Voilà, c'est ça. Il y en a qui pleurent à Yom Kippour. Ils pleurent en faisant Kol Nidré. On dit même, vous avez peut-être lu ça, que lorsque Christophe Colomb est parti avec la Santa Maria, eh bien, les passagers, pratiquement tous les passagers des trois bateaux de Christophe Colomb, c'était des juifs maran, c'est-à-dire des juifs qui, en Espagne, ne pouvaient pas vivre leur judaïsme. Et ils ont eu l'espoir, avec Christophe Colomb, de pouvoir aller dans des nouveaux pays où ils pourraient vivre librement leur judaïsme. Certains disent que Christophe Colomb lui-même était maran. Bon, il y a des livres entiers qui ont été écrits pour dire oui, pour dire non, peu importe. Mais en tout cas, l'équipage, ça c'est indubitablement indubitable. Et la scène énorme sur la Santa Maria, Kol Nidré sur la Santa Maria. Kol Nidré, qu'est-ce qu'il y a Kol Nidré ? C'est nul. C'est bidon. Alors, qu'est-ce qu'il y a Kol Nidré ? Tu pleures, tu fais Kol Nidré, c'est bidon. Maintenant, je prends sur moi que je ne fais plus de neder. Je ne veux plus. Je ne veux plus faire des néder. Si t'arrives pas à pleurer, je veux plus faire des néder.
Qu'est-ce qu'il y a? Il y a rien.
C'est comme ça le moment le plus émouvant du Yom Kippour.
C'est de ne plus faire de néder ou que le néder qu'on a pu faire ou qu'on pourrait faire ne soit sans valeur. Moi j'ai compris
annulé ça.
C'est l'annulation des vœux.
Alors.
C'est différent quand même. C'est différent de dire qu'on ne le fera plus ou de dire que
si on en fait. Non, si j'en fais, ils seront bidons. Ça veut dire. J'en ferai, mais ils seront bidons. Pendant l'année. L'année à venir.
On n'a plus de vœux. Moi, je croyais qu'il fallait juste annuler pour arriver, comme si on arrivait à un tribunal. On arrive, on va être jugé sur ce qui s'est passé auparavant.
Pas du tout. Mais non, ça c'est autre chose. Normalement, à Yom Kippour, on est jugé sur ce qu'on a fait. Ouais, quelqu'un, il a fauté, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fauté. Il a mangé du chocolat sans tampon. Voilà, toc. Là, fais de chouva sur ce que t'as fait. Ok, alors là, Yom Kippour, on va se retrouver devant Dieu. On va se retrouver devant Dieu. On regrette d'avoir fauté. On ne veut plus fauter. Dans ça c'est bon. D'ailleurs, on le fait à Yom Kippour. Voilà, on prend à Yom Kippour, on dit voilà, j'ai fauté, je regrette, j'arrête de faire telle faute précise. Voilà, on doit préciser la faute précise. Bon, ça va, on comprend. On peut être d'accord, pas d'accord, mais on peut le comprendre. Voilà. Mais les Nédarim, vous pouvez remarquer, je tiens à souligner l'exceptionnel de notre étude ce soir. On ne fait jamais des speeches, qu'est-ce que c'est Yom Kippour non, Yom Kippour, on fait. Mais qu'est-ce que c'est Kol Nidré? Vous allez des fois, là, la choule où il y a Clément, à Place des Vosges. The moment, c'est la choule Ashkenaz, the moment, c'est Kol Nidré. Il y en a qui vont que à Kol Nidré. Que à Kol Nidré. Chez les Sfardim, c'est surtout Neïla. Et chez les Ashkenazim, c'est Kol Nidré. Mais tu décryptons qu'est-ce que c'est Kol Nidré, c'est bidon. Alors, soit c'est bidon, soit ça ne l'est pas. Et le but du jeu, c'est de dire que ça ne l'est pas, évidemment, vous avez compris. Mais quoi? Ah, c'est ça le message. C'est ça le message. C'est bidon.
Aujourd'hui, il faut choisir Kol Nidré ou Neïla, c'est pareil. Parce que Beatles sont
une. Voilà, c'est ça. Il y a deux camps. Choisis ton camp, camarade. C'est soit Kol Nidré, soit Neïla.
Question de
Nédarim,
ça peut pas être des lois
anarchiques,
c'est forcément des lois qu'on s'impose en plus.
Voilà, c'est des trucs qu'on s'impose en plus. Le cœur de Kol Nidré, c'est faire tchouva sur les choses de la Torah elle-même. Mais avant d'aborder la tchouva elle-même, on enlève les choses en plus.
Donc un Nédarim, ça ne peut pas être par exemple, j'arrête de fumer le Shabbat. Ça, c'est pas un Nédarim.
Ça, c'est pas un éder, c'est écrit dans la Torah, il n'y a rien, ça, c'est pas un éder, ça, c'est... Non, j'arrête de...
Non. Un régime, ça
comment
oui. Si je dis cette semaine, je fais un régime, oui, c'est un éder.
Non. Non, ça, un éder, c'est un engagement solennel. C'est un engagement... Comment
on peut s'engager pour un régime. On peut s'engager solennellement à faire un régime pour...
Voilà, ça c'est un éder.
Non, mais c'est ça, là, Yom Kippour, c'est sur la Torah, c'est notre place, la Torah. Donc tout ce qu'on prend nous et tout notre truc de la vie quotidienne qu'on se prend la tête pour ça, c'est pas la question.
Donc, on le zappe.
On le zappe, on fait Kol Nidré et après on passe aux choses sérieuses.
Voilà, d'accord.
Kol Nidré, c'est sortir de la réalité, c'est sortir de tout notre contingentement au quotidien, nos règles à nous, pour aller à l'essentiel comme. Je sais pas comment t'appelles, comme
une vie. Jessica, oui.
C'est ça, Kol Nidré?
Je sais pas, je sais.
Est-ce que la gravité du moment ne vient pas du fait qu'on se renvoie vers notre condition de chair, justement. À ce moment-là, on se rend compte de notre
faiblesse.
Ne te rajoute rien, voilà. Parce qu'on déjà ce déjà à faire, c'est tellement bien. Difficile que ne te rajoute rien. C'est ça qui rend le truc solennel, c'est comprendre la dimension de ce qu'on est.
Pourquoi par le Neder?
Par le fait de rendre compte notre limite. Notre limite, c'est de ne pas aller au-delà de nous imposer d'autres choses.
Notre orgueil.
Au-delà de ce que le cadre qui nous a été fixé, parce qu'on ne sera pas forcément en mesure de le tenir. On n'aura pas cette force.
Mais déjà, tenir le cadre, c'est difficile. Donc, voilà. Plus on s'impose d'autres
choses. Et rajoute-toi à
la Torah.
Laisse tomber, elle n'a aucune chance.
Regardez, j'essaie de. Il y a un truc en plus que tu dis, d'accord. On va essayer un peu de le mettre en relief. Tu dis, Ilan, que Kol Nidré, c'est. Enlever un peu la vie quotidienne.
C'est la chair.
Voilà. Mais il faut le dire avec précision. J'aimerais dire comme ça. Dans la vie quotidienne, dans l'année, on est confronté à des problèmes dans l'existence complexes. des problèmes complexes. Prenons un exemple. Je prends un exemple, comme ça, pour essayer de sentir la chose. Un homme, nonobstant ce que les journaux disent, un homme même pieux, il peut dire bonjour à une dame. Un homme juif pieux peut dire bonjour à une dame. Il peut être assis dans un autobus à côté d'une dame. Je veux dire, bon, vous comprenez ce que je veux dire? Ouais, bon. Ouais. Maintenant, ça c'est la vie quotidienne. Mais disons que quelqu'un, il soit attiré fortement par une femme qui lui est interdite. Et disons même que ça soit réciproque. Mais il sent que la pente est glissante, savonneuse. Alors, il peut se dire, bon, d'habitude, je dis bonjour madame, bonjour mademoiselle, comment vous allez, ça va. Mais avec elle, ouais, je commence pas à discuter. Voilà. Avec elle, je ne veux pas commencer à discuter. Parce que si je commence à discuter, c'est pente savonneuse. Je veux pas. Je veux pas. Ça soit en soi, dans l'absolu, c'est permis. Dire bonjour, il n'y a rien. Mais avec elle, je veux pas. Parce que je sens que comme on dit en yiddish, stinkt. Stinkt. Ouais, ça va pas. Il vaut mieux se mettre une barrière. Ça, c'est un genre de neder. C'est un genre de neder. Mais qui est nécessaire dans la vie. Si on ne fait pas des barrières comme ça, ça c'est un exemple, je prends un exemple parmi 100 000, chacun il va se prendre l'idée qui lui plaît, peu importe, je prends un exemple, lambda. Non, je ne comprends pas, je reçois un SMS, il y a son nom, je n'ouvre pas, voilà. Je romps complètement, je ne veux pas commencer. En soi, il a raison de le faire. La personne qu'il fait a raison, parce qu'elle sait que face à certaines situations, elle peut, bien qu'en soi la chose soit rien, à la limite c'est permis, mais ça peut l'amener à quelque chose qui peut être interdit et peut foutre sa vie en l'air avec ça, donc je veux pas. Bien. En soi, ça c'est la vie quotidienne. On a besoin, ça veut dire on a besoin de se poser soit dans sa vie individuelle, émotionnelle, ou même dans sa vie sociale. Sa vie sociale. Je sais pas, moi, par exemple, je suis habillé comme un juif orthodoxe, Bnei Brak, machin. On a besoin de se positionner dans la vie. Quelqu'un, il travaille chez IBM, il doit avoir un certain habit. Il est médecin, il doit avoir un certain habit. Il est consultant dans une boîte internationale. Il doit être habillé d'une certaine manière. Si tu es consultant dans une boîte internationale et que tu n'es pas habillé comme un consultant, tu bosses pas dans cette boîte. C'est nécessaire à la limite. C'est nécessaire. C'est que le grand patron qui peut arriver en polo, ouais, en basket. Mais le cadre, ouais, le cadre, il est habillé comme un cadre. Voilà. Il a fait des études pour être habillé comme un cadre ou un cadre supérieur. Voilà, c'est comme ça. Bien. C'est nécessaire, on se positionne, soit socialement, soit par rapport à soi-même. Voilà. Mais tout ça, finalement, fait que je me suis mis des barrières. Et je dirais, je n'ai plus de relation à Dieu. Je me suis positionné. Je suis quelqu'un de bien. Je suis quelqu'un de cultivé. Quelqu'un de bien. Quelqu'un qui a un abonnement à l'Opéra de Paris. Je ne suis pas un sauvage. un abonnement à l'Opéra de Paris, c'est quand même un certain niveau. Je veux dire, c'est pas... C'est... Mes grands-parents, ils étaient dans le Shtetl, mais je suis sorti du Shtetl, hein, maintenant. C'est ouais, l'Opéra de Paris. C'est, on va au gala de la Yeshiva des étudiants. C'est une manière de se poser. Il y a le grand rabbin de France. Oui, qu'est-ce que tu as fait cette semaine? Tu es au gala de la Yeshiva des étudiants. Il y avait le grand rabbin de France. Il y avait le... La bouffe, c'était le meilleur traiteur cachère de la place. Avec des gens bien. Bon, mais à force, on se positionne, ce qui est nécessaire. On a besoin de références, etc. À force de références, de positionnement, on évacue, je dirais, ce qu'on est. Regardez aujourd'hui, on dit voilà, il y a quelqu'un au FMI. Ouais, directeur du FMI, il a été quelques minutes avec une femme de ménage, on ne sait pas qu'est-ce qu'il a fait. Et sur toute la planète, ça a été pendant plusieurs semaines, la une, ça a été la une. Mais c'est mais, je sais pas, c'est un homme, je veux dire. C'est un homme, qu'est-ce qu'il y a?
Lui aussi est de chair.
Comment?
Lui aussi est de chair.
Oui, lui aussi est de chair, je veux dire. C'est pas. Comment dire? C'est pas un grand. C'est pas une grande nouveauté, je veux dire. Tu mets quelqu'un avec une soubrette dans une chambre. Il y a 8 hommes sur 10 qui lui tapent sur les fesses, je veux dire. C'est quelqu'un ne le fait pas, c'est, excusez-moi, vous dites c'est... Bon, alors... Et les Chachamim nous disent, ne reste pas en même temps qu'une femme seule dans la même pièce. Reste pas seul avec une femme qui n'est pas ta femme. Comment? Non, mais ce que je veux dire, on est étonné. Non mais c'est. Je veux plus revenir, on a déjà assez parlé de cette histoire. On a parlé énormément de cette histoire. Mais ce que je veux dire, c'est comme si on est étonné. Comme si on est étonné. Mais comment? Non, bon, mais ça, c'est... J'en sais rien, moi. Peut-être il a tiré par les mains, j'en sais rien, moi. J'en sais rien, moi. Mais... Ce que je veux dire, mais... On est... Mais c'était... À cette époque, quand il y a eu cette histoire-là, mais c'était incroyable. La une de tous les journaux en France pendant des semaines... Mais paraît-il, dans le monde entier, c'est extraordinaire. Béchégam ou pas ça? Ça veut dire, on se met tellement de barrières, on a tellement besoin d'avoir une apparence de quelqu'un qui n'est pas sauvage, que notre animalité, en vérité, ce qu'on est complètement zappé. On se met tellement de nedarim, tellement de barrières, tellement de trucs, de positionnements, qui sont nécessaires. C'est nécessaire de se positionner par rapport à soi, par rapport aux autres. Mais à force, on arrive à Yom Kippour, mais on... Et alors, Yom Kippour, c'est quoi? On reçoit la Torah. La Torah, qu'est-ce qui se passe au cœur de Yom Kippour? Le cœur de Yom Kippour, regardez. Regardez les versets dans Parashat Acharemot. Donc, dans le Lévitique, je vous donne la page.
Exact, 190.
Alors, c'est le verset Hé, verset 5. Chapitre 16 de Lévitique, verset 5. Donc, chapitre 16, verset 5. Je le lis en français. Donc, c'est le cœur de Yom Kippour, c'est le service au temple à Yom Kippour. De la part de la communauté des enfants d'Israël, il prendra, c'est-à-dire le grand prêtre, deux boucs pour l'expiation et un bélier comme holocauste. Verset 7. Il prendra les deux boucs et les présentera devant Hachem à l'entrée du Ohel Moed de la tente d'assignation. Aaron tirera au sort pour les deux boucs. Un lot sera pour l'Éternel, un lot pour Azazel. Ça, c'est le cœur de ce qui se passe à Yom Kippour. C'est quoi? C'est qu'il prend deux boucs similaires. Donc le Kohen Gadol, le grand prêtre, prend deux boucs similaires. Il tire au sort. Un bouc ira pour le service de Dieu. Et un bouc, c'est le bouc émissaire. Il va dans le désert, il sera lâché dans le désert. Il représentera les fautes, le mal. C'est quoi le cœur de Yom Kippour? Le cœur de Yom Kippour, c'est la perception qu'on peut à la fois, c'est on peut servir Dieu, rentrer au sein des saints, dans le Kodesh HaKodashim, et on peut aussi faire le mal le pire. C'est possible. Ça, c'est là, on peut recevoir la Torah. À ce moment-là, c'est le jour où on reçoit la Torah. La Torah est là pour nous donner un cadre où on peut vivre cette expérience. Qu'en vérité, on est devant Dieu. Regardez, le verset dit, on vient de le lire, il prendra les deux boucs et le présentera devant le Seigneur. Le verset 7, Velakar et Chne Aseirim, Ve Emid Otam, Lifne Hashem, Peta, Oel Moed. Il prendra les deux boucs et les placera devant Dieu à la porte de Oel Moed, de la tente où de rencontre avec Dieu. À l'endroit de rencontre, Oel Moed, de rencontre avec Dieu, il les place, les deux boucs. C'est-à-dire, ces deux boucs représentent en vérité ce qui se passe à l'intérieur de l'homme. La capacité d'un côté que c'est possible. C'est possible de servir Dieu avec la plus grande proximité, et c'est possible aussi de faire le mal avec de faire le mal possible. C'est possible chez l'humain. Et s'il y a cette perception vivante, alors, il y a la possibilité de réception de la Torah.
Mais Dieu, il intègre ça.
Comment ?
Dieu, il intègre cette perception du mal. C'est-à-dire que c'est lui qui dit qu'il faut deux boucs, mais il dit qu'il y a aussi, il intègre le fait que même dans la Torah, il y a et le bien et le mal. Il y a un bouc pour l'Éternel et un bouc pour Azazel.
Tu veux dire quoi ?
Ce que je veux dire par là, c'est qu'il intègre cette fonction, cette animalité chez l'homme, qui a à la fois chez lui le bien. Et le mal, si j'ai bien compris. On n'est pas censé uniquement se tourner vers le bien. On se tourne bien vers le bien ou vers le mal. Et où vers le mal. Il pourrait dire, on a deux boucs, je le donne uniquement, c'est uniquement pour moi. Mais l'Éternel, il dit à Aaron, il dit, voilà, je comprends tout à fait que l'homme a une part de bien, si j'ai bien compris la représentation, la symbolique des deux boucs, une part de bien et une part de mal.
Non, c'est qu'il peut faire. C'est, en vérité, on pourrait dire...
Il a le potentiel pour faire les deux.
L'homme a un potentiel, il est libre, voilà, on pourrait dire. L'homme est libre. Il est l'ifné Hachem. Mais en vérité, nous, on n'arrive pas à ça. On n'arrive pas. C'est très peu. C'est Moïse. C'est ça, quand elle est Béchéga Moubassa. Moïse, Mina Torah, Mina Lad. Moïse, d'où est-ce qu'on connaît Moïse? C'est que Moïse, lui, il pouvait vivre avec ce open à l'intérieur. L'homme par qui la Torah a été reçue, c'est quelqu'un qui arrivait. Parce qu'en fait, il est chef. C'est quelqu'un qui pouvait vivre que. Vous savez, il y a des gens qui disent. Je parlais un peu tout à l'heure des années 60, mais les années 60 ont été peut-être des années que j'appellerais prophétiques, entre guillemets, par le fait aussi que c'était 20 ans après la Seconde Guerre mondiale. C'était la période de la décolonisation et aussi la découverte des horreurs staliniennes. Parce que aujourd'hui, ce qui s'est passé à l'Allemagne nazie, ça n'intéresse plus personne. Moi, je vois mes élèves, sauf exception, vous êtes des vieux croutons, sauf des exceptions. Mais vous êtes des vieux croutons. Mais je vois mes élèves qui ont 20 ans à l'Yeshiva, Seconde Guerre mondiale, je leur parlerai de Vercingétorix, c'est kiff-kiff, quoi. Non, mais vraiment, c'est Vercingétorix. Aucun rapport. Et c'est bien comme ça, c'est comme ça, c'est un fait. Mais dans les années 60, les années 60, les gens ressortaient de la Seconde Guerre mondiale et ils découvraient les horreurs du stalinisme. Et il y a quelque chose qui est un traumatisme. Comment c'est possible? Mais c'était, les gens ils disent, mais c'était des malades. Alors j'ai préparé des textes des Rachamim qui parlent de ça. On peut pas tout voir, mais non, c'est pas des malades. C'est possible. L'homme peut faire ça. C'est pas des malades. L'homme peut. Comment c'est possible? Vous savez, vous avez entendu parler du goulag. Un goulag, c'était les camps de concentration, les gros camps de concentration de Staline. Vous savez, celui qui a inventé les camps de concentration du goulag, comment il s'appelait? Comment? Frankel. Le premier administrateur des goulags, celui qui a structuré les goulags, s'appelait Frankel. Un feuge. Comment c'est possible? C'est possible. Comment c'est possible que l'homme soit l'animal le prédateur le plus terrible? C'est possible. C'est possible. Comment c'est possible que vous voyez par ailleurs le plus près de nous, il y a un livre que j'aime bien, qu'il faut lire quand on est en forme. Si vous n'êtes pas en forme, ne lisez pas. Ouais. C'est Une saison des machettes de Jean Hatzfeld. Alors, Jean, vous avez lu ça? Mais, bon, il faut être cool, quoi. Il faut être cool pour lire ça. Parce que, bon, Jean Hatzfeld, c'est ses parents, bon, c'est des juifs, quoi, je sais pas, déportés ou je sais pas quoi. Et il s'est demandé comment c'est possible. Alors, quand il y a eu les massacres là-bas au Rwanda, au milieu des années 90, en prison, il y avait des gens qui ont massacré. Et lui, il est allé là-bas pour discuter avec eux. Comment vous avez fait? Comment c'est possible? Comment vous avez pris des machettes pour tuer vos semblables? Racontez-moi. Et il a écrit ça. Mais c'était pas, comme qui dirait, c'était pas que des ivrognes. Il y avait des instituteurs, des médecins, des pharmaciens, des...
Prêtres.
Comment? Des prêtres. Mais comment ils ont fait? C'est possible. Mais si c'est ça, C'est ça Yom Kippour. Yom Kippour, c'est que Yom Kippour, c'est le jour où on perçoit comme Dieu nous a créés, c'est-à-dire l'homme libre. L'homme, il peut. Il peut aller au sein des saints, la plus grande proximité à Dieu. Et il peut aussi, il est capable. Mais ça nous, on n'a pas la force. On n'a pas la grandeur, on n'a pas la force. On a besoin, on a trop de comptes à régler avant. On a besoin je sais pas, de respectabilité, pas seulement par rapport aux autres, de respectabilité par rapport à soi-même, de se percevoir, je dirais, il y a un grand maître chassidique, qui dit que l'idolâtrie, dans le langage des sages du Talmud, s'appelle la crainte. Pourquoi ? Ce maître hassidique, c'est Rabbi Menachem Mendel de Vitebsk. J'ai vu ça dans son livre qui s'appelle « Le Prix à Aretz ». Il dit « Pourquoi l'idolâtrie s'appelle la crainte ?» L'idole, la statue de l'idolâtre. Parce que l'idolâtre aimerait résoudre son problème humain. Il aimerait être toujours bien. Infaillible. Toujours bien, infaillible. Il aimerait être bien et infaillible. C'est pour ça qu'il a une statue. La statue lui donne un lien concret avec la divinité. J'ai ma statue, ne m'enlève pas ma statue. C'est le sacré. M'enlève pas ma statue, enlève pas le portrait de Baba Salé. Voilà. Touche pas au portrait de Baba Salé, il me porte bonheur. Voilà. Il y a ça fait que je vais au paradis. Si j'ai ça, je suis garanti du paradis. Je fais ça, je suis garanti d'avoir le paradis. Yom Kippour, c'est la relation à Dieu. On se retrouve face à notre Créateur. C'est quoi face à notre Créateur ? C'est on se perçoit qu'on est cher. D'ailleurs, quel est le texte qu'on lit dans la Torah à Mincha de Yom Kippour ? Comment ? Bien, bien, Jonas. Ça c'est l'Aftara, mais le texte de la Torah, c'est bien. Vous avez remarqué, il n'y a plus.
C'est pas quand Ismaël. Vous êtes les
juges, là, je
crois. Comment ?
C'est pas quand Ismaël.
Ça, c'est Rosh Hashanah.
C'est les lois d'enseignement.
C'est
les lois
d'enseignement. Voilà.
Vous savez que c'est pas traduit en français. C'est ça qui est génial. Dans les marzorim bilingues, c'est pas traduit.
Ah oui ?
Ce qui est pas mal du tout.
C'est intéressant. C'est le dur lâché, machin. Alors, donc très bien. Quel est le texte qu'on lit dans la Torah à Mincha Yom Kippour ? La Haftara, c'est ce que dit Jessica. Mais le texte qu'on dit à Mincha Yom Kippour, c'est les interdits d'inceste et d'adultère. Alors, c'est la question internationale. Tout le monde se pose la question. À Mincha Yom Kippour, ou même les juifs mécréants, je ne citerai pas de nom. Ils vont à la Sina, un jour par an, on va essayer de faire semblant d'être bien. Ouais, on prend des bonnes résolutions, etc. etc. Qu'est-ce qu'on nous dit, les interdits d'inceste et d'adultère ? D'après ce que nous voyons, c'est éloquent. C'est-à-dire que, justement, la Torah nous a été donnée. Parce que on peut fauter. Pourquoi la Torah nous a été donnée ? Elle nous a été donnée pas pour faire qu'on ne faute jamais, mais pour mettre en exergue notre
nos dimensions comme Dieu nous a créés. C'est quoi que nos dimensions de liberté. Pour mettre en exergue nos dimensions de liberté. Donc c'est Moshe Rabbeinu qui vit, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Moi je pense que c'est donné que à des gens du type de Moshe Rabbeinu. Les Moshe Rabbeinu, il y en a eu un tous les tremblements de terre. C'est, nous, on n'a pas la force intérieure de supporter. On aimerait, mon maître Rav Abitbol dit, on aimerait résoudre le problème de l'homme. Pas vivre avec la problématique de qu'est-ce que c'est l'homme. On aimerait le résoudre. Et je pense que ça, c'est un enjeu colossal aujourd'hui. Et je pense que c'est ça ce que le judaïsme a quelque chose à faire aujourd'hui. Parce que on trouve des solutions. La foi, la religion, ce sont des solutions. La Torah n'est pas une solution, mais c'est une mise en exergue de qu'est-ce que c'est l'homme comme Dieu l'a créé.
Juste une question. On sait bien, apparemment, pas comprendre. Mais les Nédarim, on est passé vite dessus, mais les Nédarim, c'est quelque chose qui est permis par la Torah. Oui. Mais si on dit que les Nédarim, c'est un cadre que l'homme se met à lui-même, le cadre qu'il se met à lui-même, il éloigne de l'immanent, il éloigne du transcendant, il éloigne du divin. Or, la Torah nous rapproche normalement du divin. Donc,
Oui, c'est très bien. Rabbi Akiva dit dans Pirkei Avot, le traité, le Maxime des Pères, dit Nedarim Siag la Prishut. Les Nedarim, c'est des barrières pour pour la sainteté. C'est nécessaire au quotidien. Il faut, ça veut dire, on n'est pas dans cette perception intense, je dirais, de notre humanité. En vitesse de croisière, les Nédarim, ou ce qui fait office de Nédarim, je dirais, ce positionnement par rapport à soi-même et par rapport aux autres est nécessaire. Il faut savoir jongler avec. Quelqu'un qui ne fait jamais, il devient clochard. Quelqu'un qui n'arrive pas à se mettre de manière, se mettre un petit peu des normes dans son quotidien, il meurt d'overdose. Il disjoncte, on ne peut pas.
Oui, mais alors, si on va...
On a besoin, si tu veux, moi je peux, disons, voilà, on va me dire, Rav Zizek, comment vous vous positionnez dans le judaïsme. Je dis, moi je me positionne par rapport au judaïsme orthodoxe, etc. Maintenant, judaïsme orthodoxe, je dirais, c'est de la foutaise, dans le fond. Dieu, est-ce qu'on vient au monde pour être un juif orthodoxe? C'est le petit bébé, quand je suis né au monde, j'ai... Ouais, c'est... Est-ce que le but dans l'existence de ce petit bébé était qu'il devienne un juif orthodoxe? C'est de la foutaise, juif orthodoxe. Mais je suis orthodoxe, je ne suis pas libéral, je ne suis pas ni ça. On a besoin, mais ça n'est que des béquilles, je dirais.
Oui, mais Nédarim, c'est le rapport de l'homme à l'homme, de l'homme à lui-même. Mais si on va plus loin, si on se dit que Nédarim, c'est ça, on peut dire, imaginons qu'il y ait des Nédarim collectifs. Des hommes ont fait des lois pour eux-mêmes.
Pour leur société, vrai, c'est vrai. Ça.
Donc là, si je vais plus loin, c'est l'idée de dire, il y a une opposition on extrapole entre les laïcs.
C'est vrai. On va conclure. Hein, une minute, hein, mes amis. Hein, voilà. On peut continuer après. Hein, je dirais, les Nédarim, ce sont des conventions que l'homme se met lui en tant que lui-même ou par rapport à la société. Soit par rapport à lui, soit par rapport à la société. Ces conventions, je dirais, elles sont nécessaires. Et même la Torah atteste de leur pertinence. Mais, dans la mesure où elles ne sont pas un absolu. Alors c'est Yom Kippour qui va donner la lutte. Nous, on peut vivre, on peut, si à Yom Kippour, on n'enlève pas ce blabla, ouais, alors on passe à côté de Yom Kippour. Maintenant, quelqu'un qui, au quotidien, vit cette dimension, ça c'est Moïse. C'est ce que le texte dit. Moïse, c'est sa réalité. Nous, on n'est pas Moïse. On n'est pas. On pèterait un câble, comme tu as dit. On ne tient pas. Mais Moïse, lui qui va recevoir la Torah, c'est ça qui est véhiculé par lui. Et je pense, pour synthétiser, on pourra voir, si vous voulez, la semaine prochaine, il y a des textes qui développent cette thématique. Comment la Torah se transmet? Qu'est-ce qui est en jeu dans la transmission de la Torah? Je pense que là, il y a un enjeu énorme aujourd'hui, parce que le retour du religieux, de la relation au divin, c'est, dans une certaine mesure, une dimension idolâtre. C'est-à-dire, chacun défend un aller simple pour le paradis. Aller simple pour le paradis, ça c'est l'idolâtrie. Si on pouvait synthétiser, ça c'est l'idolâtrie. C'est le phénomène idolâtre. Voilà, bien, allez, bonne soirée. Donc, la semaine prochaine, 20h30, hein, voilà.
Qu'est-ce que c'est le cycle de conférences, le rapport à l'argent que j'ai vu sur le mail
C'est pas moi qui organise. C'est le centre FLEG. Oui, c'est le centre FLEG.